VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 14h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Politique au Burundi, le principal opposant burundais et ex-rebelle Hutu, Agathon Rwasa, a créé ce mercredi un nouveau parti dans la perspective des prochaines élections générales prévues en 2020 dans le pays. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un de ses principaux lieutenants, le député Pierre-Célestin Dikoumana, président du plus important groupe parlementaire d'opposition, la coalition des dépendants Amizero ya Burundi ou Espoir des Burundais. Selon le député Ndikumana, plus de 500 membres fondateurs en provenance des 18 provinces du pays se sont rassemblés mercredi après-midi à Bujumbura, la capitale, pour ce qu'il a appelé une réunion constitutive du nouveau parti. Objectif, obtenir le feu vert des autorités burundaises à la création du Front National pour la Liberté, Amizero ya Burundi, pour que cette formation participe aux élections générales prévues en 2020, conformément aux nouvelles règles établies par la Constitution adoptée par référendum en mai. La nouvelle Constitution ne permet plus à une coalition d'indépendants de se présenter aux élections, comme c'était le cas en 2015 pour la coalition Amizero ya Burundi, qui a obtenu 17% aux législatives et est la seconde force politique du pays. En République démocratique du Congo, les candidats de l'opposition pour la présidentielle du 23 décembre mettent en garde contre une parodie d'élection. 5 d'entre eux, parmi lesquels des recalés dont la candidature a été rejetée, ont fait une déclaration conjointe à Bruxelles. Eddy Sango.
Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, candidats validés par la Cour constitutionnelle, Jean-Pierre Bemba et Adolphe Mozito, invalidés, ainsi que Moïse Katumbi, qui n'a pas pu déposer sa candidature, ont signé la déclaration conjointe. Ils ont prévenu de tenir la CENI et les gouvernements responsables du chaos et des conséquences d'une parodie d'élection. Ils exigent que les candidats récalés soient réadmis à participer à la présidentielle et à la CENI d'abandonner la machine à voter. Les signataires exigent les nettoyages du fichier des 16% d'électeurs sans empreinte digitale et la mise en œuvre des mesures de décrispation avec la libération des prisonniers politiques et l'accès aux médias publics. Pour ses opposants, les élections doivent se tenir avec une participation de la MONUSCO pour la logistique et une observation de la communauté internationale. Mais le gouvernement a déjà rejeté toute ingérence étrangère dans la préparation et la tenue de ces scrutins le 23 décembre.
Conflit au Soudan du Sud, le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont signé un nouvel accord de paix. C'était au cours du sommet régional à Addis Abeba hier. Les précisions avec Irene Herman Ungbo.
Après avoir signé le document, les deux hommes se sont ensuite serré la main devant les chefs d'État de l'Ouganda et du Soudan en présence du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Aujourd'hui, nous espérons ouvrir un nouveau chapitre et une nouvelle opportunité de construire une paix durable au Soudan du Sud, a déclaré Festus Mogae, ancien président du Botswana, chargé du suivi du cessez-le-feu. Le chef de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, David Shearer, a fait part de son espoir de voir la fin du conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et poussé des millions de personnes à fuir leur foyer. Un précédent accord a été signé en 2015, mais n'a jamais été respecté. Pour David Shearer, cette toute dernière signature est un premier pas sur le chemin de la paix. Il estime qu'il reste encore beaucoup de travail à faire.
Nigeria, l'armée nigériane a annoncé ce jeudi avoir repoussé une nouvelle attaque de Boko Haram contre l'une de ses bases dans le nord-est du pays. La dernière en date dans une série d'offensives menées par l'organisation djihadiste. Des dizaines d'insurgés se sont pris mercredi soir à la base de Damasak, dans le nord de l'état de Borno, et ont essayé de s'en emparer. L'attaque a été repoussée après plusieurs heures de combat et l'intervention de l'aviation, ont indiqué ce matin des sources militaires dans le chef-lieu de l'état de Borno, Maïdougouri. Le porte-parole de l'armée nigériane, le général de brigade Texas Chukwu, a fait état d'affrontements acharnés entre soldats et terroristes. Nigeria toujours, le président Muhammadu Buhari, officiellement candidat mercredi à la primaire de son parti visant à sélectionner le porte-étendard de l'APC à la prochaine présidentielle. Il est le seul aspirant à la magistrature suprême au sein du Congrès des progressistes, la formation au pouvoir. Plus de détails avec Morgan Guiriec.
Le chef de l'État, âgé de 75 ans, s'est rendu au siège de son parti, le Congrès des progressistes, à Abuja, pour remettre son formulaire de candidature à la primaire. Il est le seul homme politique de son parti à avoir retiré ce document pour la primaire prévue à la fin du mois. Il est donc certain de participer à la présidentielle en février prochain. Mouhamadou Bouhari a été élu en 2015 sur la promesse d'éradiquer Boko Haram et de mener une lutte féroce contre la corruption. Et sur ces deux points, il a déçu beaucoup de Nigérians. Son premier mandat a également été marqué par une maladie qui l'a contraint à passer plus de 6 mois à Londres pour se soigner. De son côté, le PDP, Parti démocratique populaire, principal parti d'opposition, a prolongé la date de clôture des candidatures à la primaire et choisira son candidat le 6 octobre. L'ancien vice-président Atiku Abubakar et le leader du Sénat, Bukola Saraki, sont des adversaires farouches de M. Bouhari.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique du Nord maintenant, au Maroc, la loi contre les violences faites aux femmes est entrée officiellement en vigueur mercredi après des années de vifs débats. Cette législation incrimine pour la première fois certains actes considérés comme des formes de harcèlement, d'agression, d'exploitation sexuelle ou de mauvais traitement des femmes. Elle durcit également les sanctions pour certains cas et prévoit des mécanismes pour prendre en charge les femmes victimes de violences. Pour en parler, John Lindon s'est entretenu avec Khadija Rabat, membre fondatrice de l'Association démocratique des femmes du Maroc.
Après 5 ans de blocage, la fameuse loi est maintenant appliquée et on souhaite qu'elle va donner des mécanismes pour la protection de la femme marocaine. C'est une loi qui était tellement revendiquée par le mouvement des femmes depuis plus de 20 ans.
Concrètement, qu'est-ce que cette loi va changer dans le quotidien des femmes marocaines?
Concrètement, c'est vrai qu'on ne peut pas nier que c'est une avancée, mais c'est une avancée très modeste. Parce que malgré les revendications des mouvements féministes qui ont tous revendiqué la mise en place d'une loi qui peut garantir la protection et aussi la promotion des droits des femmes, cette loi n'est pas conforme, elle ne répond pas aux normes internationales. La loi aussi, elle était très critiquée par les différents acteurs. Mais maintenant, on peut dire qu'avec le minimum qui existe dans cette loi, elle pourrait réduire le taux de violence à l'égard des femmes, soit au niveau du public ou du privé. Alors, c'est vrai qu'il y a certains éléments que la loi n'a pas pu prendre en charge, comme le viol conjugal, comme aussi le fait que la femme doit montrer si elle a subi des violences, elle doit les montrer et les justifier.
Vous parlez de violence. Quelle est l'ampleur du phénomène de harcèlement sexuel au Maroc et est-ce qu'on va s'attendre à des dénonciations tel qu'on le voit ici aux États-Unis avec notamment le mouvement MeToo?
Bien sûr, les femmes revendiquent leurs droits ici au Maroc aussi. Elles partent chez les centres d'écoute pour dire voilà toutes les formes de violence qu'elles subissent. Et on pourrait revenir sur une étude qui était très importante. C'est l'étude qui était faite par le Haut Commissariat au plan marocain en 2011 et qui a révélé des taux alarmants. 62,8% des femmes marocaines avaient subi un acte violent au cours de cette année. 6 millions de femmes ont subi des violences montrent que réellement l'État doit mettre en place des lois, mais aussi des stratégies pour la protection.
L'entrée en vigueur de cette nouvelle loi coïncide ou presque avec le début du procès de Khadija, cette jeune fille de 17 ans qui avait subi des sévices. Qu'est-ce que cela représente pour des cas comme celui-là?
C'est vrai que le cas de Khadija, de Amine, des milliers de cas et aussi le rapport étatique et les rapports fournis par les associations féministes qui montrent que l'ampleur du problème de la violence à l'égard des femmes est devenue de plus en plus aiguë. Et le fait d'avoir des problèmes que celui de Khadija et d'autres femmes montre qu'on a besoin d'une loi qui pourra aussi protéger, mais aussi punir les auteurs de violences.
Khadija Rabat, membre fondatrice de l'Association démocratique des femmes du Maroc. Et pour terminer, au Ghana, les funérailles nationales de l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan sont en cours ce jeudi dans son pays natal où se sont rendus de nombreux chefs d'État et dirigeants du monde entier. La cérémonie sobre et religieuse se déroule au Centre international de conférence d'Accra et marque la fin de 3 jours de deuil national où Ghanéens et dignitaires ont pu rendre un dernier hommage à Kofi Annan et se recueillir devant son cercueil. Les funérailles, qui devraient durer une grande partie de la journée, seront suivies d'un enterrement privé dans le nouveau cimetière militaire de la capitale ghanéenne. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.